Cet enseignement de l'équanimité s'inscrit, comme vous le savez, si vous êtes venu à plusieurs reprises, dans les quatre attitudes, ou si on veut, facteurs mentaux, qualités de l'esprit qu'on cultive, et c'est la quatrième de ces qualités. J'ai amplement parlé, nous avons pratiqué la bonté fondamentale, on peut dire, ou la bienveillance, l'amour, quelque part, amour altruiste, on peut dire. Première des qualités, et vraiment c'est le fondement pour les trois autres dans cette tradition Theravada. Et donc on souhaite à autrui, à soi-même, d'être heureux, d'être bien. C'est vraiment se positionner de manière à pouvoir cultiver une qualité d'esprit qui va naturellement positiver. Trop d'habitudes sont installées, je peux dire, par rapport à voir ce qui ne va pas. On est vraiment conditionné et souvent focalisé, empris au niveau de notre mental dans un sens complètement inverse à cette dimension de positiver. Donc, on peut percevoir qu'il y a un développement au niveau de notre aptitude à pouvoir vraiment cultiver une attitude intérieure par rapport aux circonstances de vie. Donc, ceci s'appelle metta et qu'on peut la pratiquer de manière complètement naturelle par le biais de la pleine conscience que vous connaissez bien, une attention à chaque instant, une attention bienveillante qui va dans le sens de ne pas s'opposer à ce qui émerge, mais d'aller à l'ouverture, à l'accueil. Donc déjà là, metta est là présentement et ceci se cultive. Et également, dans ce registre de pratique, on peut avoir à cœur, pour cultiver, pour approfondir le registre et vraiment le rapport à ce qui se passe, découvrir cette qualité au moyen de situations bien précises. C'est-à-dire qu'on peut cultiver par le biais des phrases, puis-je être bienveillante par rapport à ce qui émerge, puis-je être en accueil de ce qui se passe, puis-je être en santé, être à l'aise avec la situation qui se trame. Donc il y a vraiment cette dimension de cultiver cette bienveillance par le biais de phrases, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un mental qui foisonne de distractions ou qui ne sait pas exactement ce qui se passe, c'est tout à fait judicieux d'avoir des pensées qui vont naturellement nourrir cette qualité. Deuxième attitude est cette qualité de compassion qui est la pratique de la compassion. Toujours la même attitude, bienveillance, bonté fondamentale est la base. Lorsqu'il y a la présence de la souffrance, on l'appelle compassion. Et dans ce sens-là, la définition, c'est souhaiter à soi-même ou à autrui d'être libre de souffrance. Dans le sens de vraiment avoir à cœur de pouvoir générer des souhaits et une disposition intérieure qui va dans le sens également de prendre soin. Donc il y a toute une attitude que metta, cette bienveillance, va naturellement émerger en présence de douleur physique, douleur mentale, émotions difficiles, perturbations. Troisième élément est mudita, cette qualité dont j'ai parlé, qui est le fait qu'on comprend bien que la vie nous propose des événements et des situations difficiles qui sont de l'ordre de la peine, mais également beaucoup de beauté, beaucoup de joie, beaucoup de choses qui vont dans le sens de nous réjouir. Et donc c'est le fait vraiment d'avoir un équilibre entre ce qui peut être douloureux, il y a de la compassion, mais il y a également cette disposition intérieure à pouvoir vraiment se mettre en phase, à pouvoir se réjouir des événements heureux qui nous habitent, mais qui également, surtout, habitent une autre personne ou d'autres êtres. Donc se réjouir du bonheur d'autrui, de ce qui va bien. Vraiment prendre en compte, quelque part, cet aspect. Cultiver le contentement. L'appréciation. Donc on voit très bien aussi que ça rééquilibre par rapport à la tendance qui pourrait naître et s'installer également de ne pas percevoir ceci. Donc ça contrecarre la jalousie, bien sûr, et l'envie. Donc troisième. Donc ces trois sont trois facettes quelque part de la même attitude. Bienveillance, compassion, joie empathique. Toutes ces dimensions et ces qualités sont des facteurs mentaux. que nous avons tous en nous-mêmes, qui naturellement sont là, selon les conditions, qu'on peut cultiver, qu'on peut développer, de la même manière qu'il peut y avoir de la colère, de la jalousie, de l'envie, de la tristesse. Il y a vraiment cette disposition à pouvoir cultiver ces qualités positives. Maintenant, il ne s'agit pas de se perdre dedans, parce qu'on peut très bien se rendre compte qu'il peut y avoir non seulement une aptitude à cultiver ceci, mais se perdre dans cette dimension-là et ne pas avoir la dimension de la sagesse. Et donc l'équanimité est cette dimension de la sagesse, du centrage, de ne pas tomber dans les extrêmes. Il s'agit de ça. Et cette qualité d'équanimité n'est rien d'autre que de la sérénité. C'est demeurer en présence, pouvoir être vraiment en accueil et en même temps, lorsque ça va bien, de ne pas avoir d'attachement. Lorsque ça va mal, de ne pas avoir d'aversion, de rejet. Donc il y a vraiment cette mise en situation, bien sûr c'est un processus, bien sûr qu'il faut pratiquer, que la pratique même nous aide à pouvoir prendre en compte, tiens, comment suis-je en rapport avec cet événement extérieur de vie bien concrète ou événement intérieur, par rapport peut-être même à une simple douleur physique, et de se rendre compte qu'il peut y avoir la dimension de bienveillance et en même temps, lorsque je suis en accueil, de se rendre compte qu'il y a un certain équilibre et de ne pas s'attacher à ce moment-là à la situation présente. Donc une sérénité. Donc on comprend bien que quelque part, lorsqu'on pratique Vipassana, la pratique qu'on a l'habitude d'enseigner à profusion, il y a cette qualité d'équanimité. C'est ce à quoi on vise, c'est-à-dire une pleine conscience de pouvoir être en accueil, en présence de toute situation, sans attachement, sans aversion, sans confusion. Et ceci, on le répète constamment. Donc, dans la qualité de pleine conscience, lorsqu'on est vraiment en prise avec la réalité, qu'on n'est pas en train d'être perdu dans l'imaginaire pour essayer que ça aille mieux par le biais d'un récit qu'on se raconterait, mais d'être en phase à ressentir, à être vraiment en présence et de ne pas chercher à lutter contre, ou lorsque il y a une dimension d'aspect plaisant de ne pas s'attacher, à ce moment-là, il y a cette possibilité, ce potentiel d'équanimité. Maintenant, dans le registre des quatre demeures, aux quatre qualités positives, comme je viens d'en parler, la quatrième a vraiment une fonction toute particulière. C'est cette dimension justement de la sagesse qui nous permet de rééquilibrer l'état intérieur. Donc il y a une disposition qui fait qu'on est en sérénité, qu'on essaye de vraiment cultiver cette dimension de sérénité. Lorsque c'est désagréable ou lorsque c'est déplaisant, on se rend très vite compte qu'on a des habitudes et que la réaction habituelle est extrêmement rapide. Réaction normale, complètement spontanée. La cause de stress et de rejet, c'est lorsque c'est plaisant, je veux que ça continue. Il n'y a aucun doute et on ne s'en rend pas compte. Et lorsque c'est déplaisant, je veux absolument que ça s'arrête. Donc, attachement pour ce qui est plaisant et naturellement réaction, échappatoire, rejet, répulsion pour ce qui est désagréable. Donc, dans ces deux registres-là, nous sommes toujours positionnés en réaction et nous sommes perturbés. La méditation va beaucoup nous aider quant à pouvoir être en accueil et se rendre compte de l'attachement, se rendre compte de l'aversion. Donc, le mode, le rapport par rapport à ce qui se passe, le mode de rapport, le mode de relation, et c'est exactement là qu'on peut inviter, et c'est un processus qui fait qu'on va aller rechercher, aller dans le sens de l'ouverture, de l'accueil, de l'équanimité, de la sérénité. Maintenant, dans ce registre de pratique, il y a aussi cette immense capacité de pouvoir être tellement centré qu'il y a aussi cette compréhension de ne pas, ou d'aller en tout cas dans le sens de moins de préférence, c'est-à-dire la dimension d'impartialité. J'aime, j'aime pas. S'il y a de la sérénité, s'il y a un petit peu de centrage et d'ouverture, on est disposé à pouvoir accueillir une situation ou un être et ensuite un autre être, et qu'on n'est pas constamment dans ce registre de critique, de jugement et d'opposition. Et donc ça donne forcément un vécu beaucoup plus tranquille. Vous pouvez bien imaginer que ceci est quelque chose qui va naturellement donner une impression et un vécu de grande tranquillité. Par moment, on cesse de chasser le désagréable et de courir constamment après l'agréable, cause de stress, simplement vraiment cause d'insatisfaction et de grand stress. Maintenant, il ne s'agit pas d'indifférence, parce qu'on peut très bien comprendre ceci, et surtout dans notre rapport à soi et quand on pratique, avoir cette dimension de se rendre compte. Ça signifie que quelque part il y a de la passivité ou une certaine apathie, un désintérêt. Comme on n'est pas en train d'être réactif, on est réceptif, mais ça ne signifie pas du tout un manque d'énergie. Ça ne signifie absolument pas qu'on est en recul, en retrait, en repli. Ce n'est pas du tout cette qualité-là qu'on ressent. Il y a vraiment une immense, quelque part, activité, une énergie, mais qui est positionnée dans un registre de stabilité, d'ouverture et de disponibilité. Donc, la dimension d'ouverture, je crois, est très importante, de se rendre compte, est-ce qu'il y a de l'ouverture ? Donc, centré, oui, pas en repli, parce que la forme de repli est simplement un autre type d'aversion. C'est tout à fait décrit comme ça, comme de la peur par exemple, ou le fait même d'être replié sur soi, qui est une tendance aujourd'hui qu'on peut voir très clairement, de ne pas s'impliquer. Donc il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit vraiment de ne pas être attaché au résultat et en même temps être dans un registre d'activité, d'énergie, de déploiement, d'activité, de prendre vraiment en compte la dimension d'être impliqué dans la vie, d'être impliqué dans une situation. Donc, simplement, pour finir, avant qu'on entreprenne la pratique, on peut avoir à cœur aussi qu'il y a cette dimension de laisser rayonner pour autrui, par exemple, un souhait de bonté, de bienveillance, souhaiter à un être d'être bien ou d'être libre de souffrance, et quelque part se rendre compte que ça ne va pas dans le sens souhaité. J'ai un exemple très très clair. Pendant des mois, j'ai pratiqué donc metta, la bienveillance et la compassion, suivant le moment, ce qui me paraissait plus juste, parce qu'on va vraiment pouvoir rechercher ce qui nous paraît juste pendant le moment. Et pour une amie qui était atteinte d'un cancer. Et naturellement, ça a aidé. Ça m'a aidé aussi à pouvoir la rencontrer avec beaucoup plus d'ouverture et d'empathie plutôt que de peur et d'angoisse pour elle. Donc déjà là, on se rend vraiment compte d'une attitude qui est complètement différente dans la situation. Si on prend le temps de découvrir, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi là ? Par rapport à cette situation, je vais peut-être perdre cet ami, enfin voilà, tout ce que ça peut impliquer. Et malheureusement, plusieurs mois plus tard, cette personne est décédée. Et donc là, c'est évident que, par habitude, on va peut-être être appelé à réagir, avoir une réaction. C'est injuste, mais enfin, avec tout le méta que je lui ai donné, et j'étais pas la seule parce qu'on était, c'était une méditante, donc on était un groupe de personnes qui vraiment lui souhaitions du bien, et puis on l'a fait même avec elle et autres, ben, les circonstances de la vie ont fait que eu une trajectoire qui lui était propre. Et donc à ce moment-là, on se rend bien compte, ça ne veut pas dire que la qualité de métal n'était pas là. Au contraire, il y avait beaucoup de soins, on l'a accompagné jusqu'au bout de la meilleure manière qu'on a pu. Et il y a un moment donné où vient très naturellement, d'une manière complètement évidente, la dimension et le besoin d'équanimité, de sérénité, de ne pas être attaché aux résultats, de ne pas être en jugement, réaction contre la vie, comme on peut l'être. Bien sûr que on peut trouver les choses injustes, avoir tout ce registre qu'on connaît bien de colère et de réaction et qui sont normales, mais si on reste là-dedans, on souffre. Donc, on va à ce moment-là avoir la mesure, prendre la mesure, demeurer centré, demeurer ouvert et aller rechercher l'équanimité. Donc, c'est pas vouloir pour l'autre, mais c'est vraiment être en mesure de pouvoir à ce moment-là aller vers plus de sérénité, ce qui n'est pas souffrant. Donc, pour cette pratique de l'équanimité, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment qu'on va se mettre en situation et on peut très naturellement, et on va le faire dans un moment, choisir une situation de vie, prendre une personne qui n'est pas forcément proche, parce que je peux simplement vous dire que si on prend des êtres proches, c'est plus difficile d'être serein. Donc, on prend une personne et il est dit dans les textes qu'on commence par choisir une personne dite neutre pour la pratique de l'équanimité. Et ceci signifie quelqu'un pour lequel nous n'avons pas forcément de sentiments particuliers, ni fortement agréables, ni fortement désagréables. Il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Donc, il y a déjà une disposition. Donc, vous pouvez prendre une personne que vous connaissez de loin, ou on peut prendre même une situation de vie. J'étais, par exemple, dans une situation ce matin. Il y avait une personne dans la rue qui était assise et qui, naturellement, mendiait. Et il n'y avait aucun doute que, immédiatement, je me suis vue pratiquer l'équanimité pour cette personne. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une difficulté de vie. Ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui s'est cassé la jambe ou qui a une situation difficile par rapport à son travail. Enfin, toute personne où il y a dans son histoire de vie présentement quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, où on a besoin quelque part d'équanimité. Et là, il ne s'agit pas du tout comme les trois autres où on laisse rayonner. Donc, on a quelque part quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une énergie qui est transmise. C'est un simple positionnement, position de l'esprit, position du corps et une prédisposition à simplement témoigner. C'est le constat. D'accord? Donc, on imagine cet être, cette personne, et on constate. Et naturellement, il peut y avoir quelques réflexions qui fait que on peut se positionner, on se met dans la pratique, la mise en situation. Et ensuite, il y a donc cette situation, mais il y a également ce qui se passe intérieurement. Parce que la réaction est tellement rapide, j'ai pu voir ça, et personnellement, je l'ai élaboré comme ça, de prendre le temps de se rendre compte de notre attitude intérieure. Et la plupart du temps, il y a une réaction, donc on va devoir prendre le temps de également se positionner et d'aller à l'ouverture, à l'accueil, chercher un tout petit peu d'équilibre par rapport à notre propre senti. S'il est là, tant mieux. Vous n'avez pas besoin de faire cette deuxième phase. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc il y a vraiment cette espèce de jeu de la situation par rapport à l'extérieur, une autre personne et puis notre propre ressenti. Et donc dans les deux cas, bien sûr, on va nourrir cette pratique dans la pleine conscience. Il faut être attentif. Si on n'est pas là, il ne se passe rien. On est bien d'accord que faut être en présence et conscient. Donc, comme je l'ai dit, la phrase traditionnelle, pour l'équanimité. Donc il s'agit d'une phrase qu'on se dit à bien plaire, il y a des moments de silence, on écoute la phrase, on la répète, et puis on vit la situation. Et ça, c'est la pratique, d'accord? Donc c'est le processus de la pratique. La phrase traditionnelle dit « Tous les êtres sont responsables de leur action. Autant que je peux souhaiter leur bonheur, leur bien-être ou mal-être est de leur ressort et non de mes souhaits pour eux. » C'est-à-dire que chacun est libre de son destin. Chacun a son destin entre ses mains, si vous voulez. Autant que je peux souhaiter, exactement comme on le fait dans Metta, souhaite à l'être, à l'autre d'être bien, d'être heureux, d'être en paix, d'être libre de souffrance, je n'ai pas le destin de cette personne entre mes mains. Et donc l'équanimité est vraiment essentielle. C'est-à-dire que ça remet les choses en place, c'est extrêmement sage et judicieux. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas impliquée, mais il y a vraiment un positionnement à remettre les pendules à l'heure et ça nous permet également de ne pas prendre et devoir prendre la responsabilité sur nous pour autrui. Donc voilà le sens. Une autre phrase qui est peut-être un peu plus facile à intégrer, c'est « Bien que je souhaite le bonheur de tous les êtres et leur libération de la souffrance, leur destin leur appartient. » Tous les êtres font face à la joie et à la peine dans leur vie. Une autre phrase. Tous les êtres ont leur propre chemin. Et on peut très bien relier, et c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai pratiqué, c'est j'ai à cœur de prendre soin de toi, de cet être, mais ne peux pas contrôler la destinée. On prend la responsabilité. Donc il y a vraiment cette dimension de grande qualité, de disponibilité, de prendre soin et en même temps de ne pas être attaché au résultat. C'est vraiment ça que ça veut dire. Donc on va commencer à pratiquer. La toute première, la plus longue. Tous les êtres sont responsables de leurs actions. Autant que je peux souhaiter leur bonheur, leur bien-être ou mal-être est de leur ressort et non de mes souhaits pour eux. Voilà, donc si vous voulez bien prendre une position, si vous avez besoin de l'ajuster, on va pratiquer pendant un petit moment cette pratique de l'équanimité. Donc, il est vraiment très aidant si on a un soutien corporel à nouveau, positionnement habituel. Vous pouvez tout à fait relier votre mise en situation par rapport au point d'ancrage, soit la respiration, soit un simple contact au niveau de votre senti intérieur. Et pendant quelques secondes, prenez soin de ressentir ce qui se passe pour vous. Donc déjà là, on pourrait avoir peut-être un peu de fatigue ou bien un petit peu d'oppression dans la poitrine. Quelque chose qu'on pourrait nommer comme désagréable. Et d'appeler à l'équanimité. Puis-je m'ouvrir, être à l'aise par rapport à cette situation? Puis-je orienter mon esprit vers l'équanimité? Et ceci implique qu'on va vraiment aller dans le sens d'un accueil, d'une ouverture, d'une acceptation de ce qui est, plutôt que de réagir. Cette qualité de pleine conscience qu'on cultive à chaque instant est une prédisposition à l'ouverture, à ne pas nourrir l'attachement ou l'aversion, attachement à ce qui est plaisant, aversion à ce qui est déplaisant, mais demeurer en équilibre. Et s'il n'y a pas d'équilibre, et souvent il n'y a pas d'équilibre, eh bien de pouvoir se prédisposer, orienter son esprit vers l'équilibre. Donc à chaque instant, il peut y avoir cette compréhension, sagesse, intérêt, curiosité, si on veut, de remarquer notre rapport à l'expérience et aller dans le sens de l'équanimité, de l'équilibre. Donc on pourrait très bien pratiquer l'équanimité de cette manière. Donc par rapport aux quatre demeures sublimes ou pensées illimitées, la pratique de l'équanimité, comme pour les trois autres, il y a une mise en situation où on choisit des personnes, des êtres. Et ça nourrit tout simplement le rapport à l'expérience d'une manière un petit peu plus concrète pour beaucoup d'entre nous. Et donc dans ce sens-là, c'est extrêmement simple, comme je l'ai dit. On choisit un être, une personne pour lequel il n'y a pas d'attachement ou d'aversion en particulier. Et il y a donc, en imagination, on a cette personne en présence. On imagine visuellement si vous êtes dans un registre où facilement vous avez des images, c'est génial. Sinon, il peut simplement y avoir l'énergie de cette personne, avoir la présence. Et donc, vous la positionnez devant vous, en imagination ou à côté de vous, où il y a vraiment une stabilité dans la mesure du possible. Et puis, comme toute personne, cette personne a une vie avec des hauts et des bas. Des joies et des peines. Des gains et des pertes. Et on peut peut-être prendre en compte le fait que dans la vie de cette personne, il peut y avoir une difficulté. Donc de prendre en compte, constater ceci et vraiment aller dans le sens de pouvoir être en mesure d'appeler à l'équanimité. Tous les êtres font face à la joie et à la peine dans leur vie. Donc ça, c'est une des phrases. Qui peut soutenir la dimension de la réalité de ce qui émerge pour chacun, chacune des personnes qui vit sur cette terre. La vie se déroule selon une loi naturelle. En accord avec la loi de la nature. Donc, comme je l'ai dit, on peut demeurer en présence et en lien avec cette situation externe, mais également prendre quelques instants pour se rendre compte de qu'est-ce qui se passe en nous-mêmes. Quel est le ressenti? Est-ce qu'il y a simplement un constat, une ouverture, une disponibilité? Sérénité ou réaction? Auquel cas l'équanimité est nécessaire à l'intérieur de nous. Et si on veut, on peut être simplement conscient en silence, et comme on l'a fait, appeler, orienter vers l'équanimité, une ouverture, disposition intérieure de l'acceptation, d'ouverture, d'accueil, permettre aux choses d'être comme elles sont. Aussi, on peut être aidé en utilisant une phrase, puis-je orienter mon esprit vers l'équanimité? Puis-je demeurer ouvert et en équilibre par rapport à cette situation? Voilà, donc vous comprenez un petit peu de quoi il s'agit. Si vous voulez passer quelques instants en silence sans que je parle ou que je guide, vous pouvez vous rendre compte de la pratique. Puis à la fin, on donnera une orientation légèrement différente. Maintenant, on peut, si on le souhaite, laisser simplement partir cette, cette personne, vous resituer, prenant en compte ce qui est présent en vous, et vraiment établir un contact où vous prenez conscience du rapport à l'expérience présente. Et simplement dans votre propre situation de vie, il se peut qu'il y ait un aspect où vous manquez d'équanimité, situation de vie, situation relationnelle, professionnelle, où il peut y avoir un trait de caractère, par exemple, qui est là, qui naturellement peut faire émerger un manque d'équanimité, réaction, attachement, aversion. Et donc, prendre soin de vous relier à cette situation de vie qui est la vôtre. Et à nouveau, très lentement, naturellement, puis-je orienter mon esprit vers l'équanimité. Les êtres ont leur chemin, ceci est mon chemin. Une ouverture, une dimension de disponibilité à pouvoir aller à la rencontre de ce qui est, des conditions, et de pouvoir orienter son esprit vers plus de sérénité plutôt que de réagir. Et à nouveau, remarquez, quand vous êtes dans la situation, vous pouvez imaginer la situation et intérieurement, comment vous vous resituez. Donc, et à nouveau, la situation, la présence par rapport à cette situation. Donc il y a vraiment cette dimension de sagesse profonde qui va dans le sens d'être en accord avec la vie. Une des phrases très clairement définies, qui définit l'équanimité, c'est vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. Pouvoir être en profond accueil avec ce qui se situe et laisser émerger la possibilité, le potentiel de vivre en accord avec les choses comme elles sont. Bien sûr, ceci est un processus. Et quand on est en rapport de cette manière aussi intime, il n'y a aucun doute que par moment il y a une réaction. Et à ce moment-là, l'équanimité se situe face aux réactions, d'aller non pas nourrir les réactions d'une manière compulsive comme on le fait par habitude, mais d'aller puiser dans l'ouverture, l'accueil, une disposition qui va orienter l'esprit vers plus d'équanimité. Là, on va donc rester 2 ou 3 minutes en silence pour terminer la session.